Combien de gens réussit-on à rendre heureux dans une vie ? Se demandait Daniel Flamme, un homme d'une soixantaine d'années à présent, tout en parcourant les journaux français et étrangers qu'il achetait tous les jours, alors qu'il aurait pu en faire l'économie pour ce que ça lui a apporté.
Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Daniel Flamme évoque le personnage d'un film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, dans lequel Charles Denner, merveilleux acteur à l'allure fragile, ne peut vivre que pour et par les femmes, dont les jambes, dit-il, établissent l'harmonie et l'équilibre du monde. Daniel Flamme est-il un homme enfant, capricieux, narcissique et autodestructeur qui ne peut désirer que ceux qui lui échappent ? C'est dans Royal Romance, roman édité chez Julia, que François Veillergance, romancier et académicien, nous décrit les errances sentimentales d'un écrivain errance d'un homme à la recherche de lui-même. François Veillergance, bonjour.
Bonjour.
Alors, bon, j'ai utilisé des adjectifs qui ne sont pas très sympathiques. Capricieux, narcissique, autodestructeur. C'est trop, non ?
Vous essayez de caractériser le personnage masculin principal de mon roman.
Ben voilà, de Daniel Flamme, mais on va trouver d'autres choses encore. Hein, mais dans un premier temps.
Ça m'échappe un peu, ça m'est un peu égal. C'est pas comme ça que je. Vous savez, moi, j'ai pas un point de vue de lecteur. Hein. J'ai un point de vue d'auteur, comme le signale le titre de votre émission. Et donc, je m'intéresse pas trop à caractériser après coup les personnages. Alors, ce Daniel Flamme, comment on peut résumer un peu. En même temps, si on se met à résumer, c'est même pas non plus pour ça que j'ai écrit le livre, c'est pas pour le résumer. Et il y a chez ce personnage masculin un peu comment dire, une sorte d'égoïsme. Alors je crois que je rends service à une série de mes lectrices en leur rappelant, si besoin est, ce que c'est que l'égoïsme masculin.
Et lecteurs.
Non, les lecteurs, ils savent un peu.
Croyez-vous ce qu'est,
j'ai le sentiment que oui, même si cela vous pas. Et en plus, c'est une des constantes de la littérature occidentale depuis longtemps, de mettre en scène des personnages masculins qui sont dignes des épithètes pas toujours glorieuses que vous avez utilisées au début de l'émission. Si vous pensez aux personnages de masculins de Stendhal, même de Diderot, ce n'est pas des gens... C'est-à-dire, pourquoi devrait-on être sympathique ?
Oui, alors je n'ai pas dit antipathique.
Non, j'entends bien.
Je ne l'ai pas dit.
Oui.
Et je reconnais que c'est schématisé, hein, c'est bon, effectivement. Non, parce que j'ai lu aussi, j'en étais encore à la devise de mes 16 ans, ne rien refuser de ce que vous offrira la vie. Et je me suis dit que c'est la prolongation de l'adolescence. Et dans le fond, quand vous parlez d'égoïsme masculin, je me demande aussi s'il n'y a pas ce désir de prolonger l'adolescence.
On peut répondre par un paradoxe, c'est-à-dire que l'adolescence se termine.
Il paraît que maintenant, ça peut se terminer. Certains disent à 24 ans. C'est précis.
Qu'ils en savent. C'est quoi, c'est les psychologues qui publient des livres au lieu d'étudier mieux leurs patients qui doivent dire ça. L'adolescence est un des moments les moins étudiés, paradoxalement, dans la littérature. Qui s'occupe de ces choses-là. Dans la littérature, je veux dire médicale presque ou psychologique.
Parce que
l'enfance est une star absolue. Alors, la petite enfance, même parfois la période prénatale, tout ça. Sigmund Freud s'y est précipité à fond. Et alors, l'adolescence, enfin, on vous pose plus de questions sur votre enfance que sur votre adolescence. Et c'est quand même là où où se forme beaucoup plus. Alors, l'adolescent, bon, maintenant, on nuance.
Est-ce qu'on peut cerner une adolescence ? C'est tout est en devenir.
Non, on peut cerner la période. C'est-à-dire, pour chaque être humain, on peut dire, disons, c'est quoi alors ? C'est entre. Ce fut entre 12 ans et 18 ans. Maintenant, il y a les pré-adolescents. Puis alors, on dit maintenant des ados. Alors déjà, le mot ado n'est pas le mot adolescent. Et si on écoute un peu ce qui se dit, et si on pense à une des grandes conquêtes des sciences humaines au siècle dernier, c'est-à-dire de dire que le langage et la pensée sont très liés, et qu'on pense avec le langage qu'on a, donc un ado n'est pas un adolescent. Mmh. Tout ça, c'est une petite variation que je vous fais pour ne pas répondre à la question de savoir si le personnage masculin principal, narrateur de mon livre, qui prend la plume à l'âge de... plus ou moins 60 ans, et qui va raconter en flashback des choses qui sont passées 10-12 ans avant. Alors, est-ce qu'il serait encore adolescent? Encore là, c'est comme pour les adjectifs de tout à l'heure. C'est pas des choses à quoi je pense. Et c'est un narrateur qui raconte des choses qu'il a vécues. Et puis, les lecteurs peuvent avoir leur jugement là-dessus. Moi, je décris quelque chose. Et ce qui est assez curieux, c'est... On tombe dans ce grand classique de la lecture, qui est que chaque lecteur... projette, oui. Et dans le livre et le comprend à sa façon et donc met en jeu sa propre vie, ce
et
qui
oui,
est d'or,
et
ce
du coup,
qu'on
il
cherche
échappe à son auteur, effectivement.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, moi, je me suis pas lu.
Oui.
J'ai écrit. Oui. J'arrive parfois à me relire un an ou deux après quand le livre, quand mes romans sortent dans des formats
distance,
de poche.
Oui.
Non, uniquement technique, parce que quand on publie en collection de poche ou le livre de poche ou folio, chez l'imprimeur, il y a une nouvelle composition. On recompose le texte, donc il est imprimé à nous. Donc il faut le relire pour voir s'il n'y a pas ne fût-ce que des coquilles, des erreurs, des fautes. Et là, comme ça se passe, je vous dis, un an ou deux après, j'ai du recul, j'ai un petit peu oublié ce qu'il y a dedans. Quoi, et donc là, je me lis, plus ou moins.
Et alors,
mais en même temps, j'ai pas quelque chose qui est essentiel dans la lecture, c'est la surprise.
Oui.
C'est la surprise de découvrir, parce que c'est moi qui ai fabriqué le livre.
Vous n'êtes pas surpris quand même, en disant, tiens, ça c'est plutôt pas mal. Non, certainement, non.
Pas vraiment. Ce que j'essaye de faire d'abord, j'essaye de surprendre le lecteur. Alors j'essaye de faire des phrases dont le début n'annonce pas la fin, des paragraphes dont le début n'annonce pas la fin, et même tout
là
le roman.
Là, vous devancez, parce qu'à un moment donné, justement, il y a un petit passage où vraiment c'est typique de votre style, qui est très intéressant, parce que comme vous dites, le début n'annonce pas la fin, et on est surpris, on pourrait dire que vous passez du coq à l'âne, et en fait, tout se fait naturellement. On a l'impression que ça se fait naturellement, mais j'imagine
c'est un peu
que
travail c'est... technique, ça, oui.
Exactement.
Enfin, mais ça ne devrait pas préoccuper les gens qui lisent. C'est fait pour être lu avec un certain confort, quand même.
Oui.
J'aime bien qu'il n'y ait pas d'aspérité qui reste, tout ça. Donc ça, c'est du travail.
Oui, et le fait que ça paraisse naturel, c'est ça, en final, qui est important.
Voilà, oui, c'est le fameux naturel reconstruit. Quoi,
oui. Parce que... Quand je parlais de l'adolescence, c'est parce que j'ai souri quand j'ai vu le nom de Daniel Flamme, parce que moi, je me souviens d'une série télévisée dans les années 70, c'était Capitaine Flamme.
Oui, j'ai connu ça aussi, mais je n'ai pas pensé... En fait...
Les garçons regardaient ça.
Oui. Je m'en suis souvenu, on me l'a rappelé, d'ailleurs, ce n'est pas la première, là, mais quand je cherche des noms de famille pour mes personnages, je prends toujours des noms de famille qui existent et je les cherche plutôt dans des catalogues de livres de sciences, des choses comme ça. Et là, il y a un physicien assez connu qui s'appelle Léopold Flamme, dont j'avais un ouvrage traduit en français jadis, et qui a été l'assistant de Rorschach, enfin de Rothschild, Schwarzschild, un autre.
Oui.
Enfin, ce sont des physiciens viennois et allemands du début du XXe siècle. Et alors, je trouve leur nom et ça me plaît, donc je pense à eux. Et alors, très bizarrement, peut-être je me suis aveuglé, pourtant j'ai passé un temps fou à écrire ce livre, enfin beaucoup de temps. Je me disais, Flamme, c'est bien, c'est son nom de famille, ça fait F-L-A-2-M, ça sonne bien, et c'était un nom qui existe. Et après, il y a eu plein de lecteurs ou de critiques qui ont fait des jeux de mots sur Flamme, la flamme, le côté amoureux, déclarer sa flamme.
Déclarer sa flamme.
C'était dans le livre, hein. Moi, j'y ai pas pensé, c'est bizarre.
Oui. Alors, Daniel Flamme, donc, est écrivain. Et il éprouve des difficultés à commencer un roman. Alors évidemment, François Veillergans, on le sait, vous êtes romancier, vous êtes académicien, et vous le dites, vous avez des difficultés vous aussi à commencer un roman, non ?
Mais je le souhaite à tout le monde. Je vois, la personne qui n'a pas de difficulté à écrire n'écrit pas si bien que ça, à mon avis. Enfin, ça me paraît inhérent à l'écriture, que ce soit difficile.
Oui.
Alors ce qu'il y a...
Est-ce que chacun, c'est suivant la technique, je ne sais pas, parce que finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est difficile ? C'est l'idée, ce n'est pas la forme pour vous, parce que la forme, vous la travaillez après.
On ne travaille rien après, on travaille tout pendant. Il y a pas...
Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être d'avoir le thème, pas un plan ?
Non, il y a un vague plan, non, il faut trouver le ton. Un peu comme en musique, il faut trouver la couleur du morceau, et là, il faut trouver le ton, et ça peut prendre du temps. Ça. On peut écrire 10, 20, 30, 40, 50, 100 pages, on peut travailler pendant 6 mois, on n'a pas le ton. Tout à coup, on trouve le ton, lequel ton démode et annule presque les pages précédentes parce qu'on a tout à coup trouvé le ton dans lequel on veut écrire. Et ça, c'est une expérience qui est, que je ne suis pas le seul à faire, hein, que j'en ai parlé, d'autres écrivains le font aussi. Alors évidemment, il y a des écrivains, j'en parlais récemment avec l'un d'entre eux, je ne vais pas donner son nom, qui écrit des livres que j'aime pas, enfin facile, un peu délayé, enfin, je supporte pas
qu'on
ce qui est délayé.
On a peut-être reçu ici, je ne sais pas, non, vous ne voulez pas dire son nom.
Non, mais je n'ai pas la liste de gens que vous avez reçus, mais c'est, bref, il me dit, je ne comprends pas qu'on ait des problèmes pour écrire, moi je n'ai pas de problème pour écrire. Et moi, je me suis dit, mon pauvre vieux, ça se voit. Hein. Et en même temps, il fait des trucs qui se vendent, hein, c'est tant mieux pour lui. Hein,
c'est oui, bien, alors c'est vrai que la qualité n'a rien à voir avec la vente, hein, on est bien d'accord.
Ah oui, mais ça la soit, oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, mais que faites-vous quand vous n'écrivez pas ?
Ah ben ça, je mène ma vie. Hein,
je suis indiscrète, là.
J'allais dire, ça ne vous regarde pas. Non, on accumule
mais
des
je
choses.
Mais je pense, voilà, oui, vous accumulez. Est-ce que vous prenez des notes ?
De moins en moins, parce que mes notes, je me suis rendu compte, j'en prenais jadis, quand j'étais, il y a longtemps. Et puis, je les prenais mal, elles étaient trop succinctes. Et quand je les relisais quelques années après, je ne comprenais même plus. Parce que c'était. Alors, évidemment, par exemple, j'étais au Japon, je vois un temple bouddhiste dans une campagne, et je mets beau temple bouddhiste, reflet doré, chrysanthème. Vous voyez, par exemple. Bon, alors, au moment même, j'écris ça devant le temple, donc j'ai l'image. Et alors, quatre
et
ans après.
Et après, vous dites, c'est plat.
Ça ne me rappelle rien. Donc, oui. Ce qui me rappelle plus de choses, ce que je fais maintenant, c'est que j'achète des cartes postales. Tant que je peux, mais même des moches, des cartes postales de rue. Je prends des photos avec mes téléphones, des photos de rue, comme ça me rappelle des choses. Oui. Ça fait un carnet de notes, en images. Aussi des factures aussi. Alors, j'ai retrouvé, par exemple, des factures de restaurants anciennes, et tout à coup, je vois la facture, et tout à coup, je revois le restaurant, la personne avec qui j'ai dîné là, et tout ça. Et aujourd'hui, l'ennui, c'est que les factures sont souvent faites sur du papier thermique, et donc elles s'effacent.
Ah, en plus.
Elle s'efface au bout de quelques mois, il n'y a plus rien.
D'accord.
Alors je demande maintenant de faire des factures à la main. Alors ils n'aiment pas faire des factures à la main parce que c'est un peu de boulot. Enfin, on a le droit de les demander. Donc il faut sortir le papier, écrire à la main, tout, et puis mettre en tampon. Et moi je les demande parce que ça me sert d'aide-mémoire.
Oui, mais vous-même, vous écrivez à la main ?
Ah oui, bien sûr, oui.
Ah oui, toujours ?
Oui, j'écris avec tout. Moi. Mais dès que
pas l'ordinateur.
Si aussi, mais dès que c'est un peu compliqué, et c'est souvent compliqué, j'écris à la main. Je préfère écrire à la main. Alors au bout d'un moment, à force de raturer et tout, on ne se relie pas à une vitesse normale. Alors là, avant, je tapais à la machine à écrire mécanique, mais maintenant, je ne trouve plus de ruban encreur. On ne trouve plus de ruban. Donc j'ai dû renoncer à la machine à écrire mécanique. Je regrette un peu parce que j'aimais bien le bruit.
Et puis, c'est difficile pour les repentir quand même, hein, pour revenir.
Non, au contraire, c'est ça qui est bien pour un romancier, pour un écrivain, disons. Parce que les ordinateurs ne sont pas faits pour les écrivains, c'est fait pour des travaux de secrétariat. C'est fait justement pour effacer. Il n'y a pas de travail. Et même ça fait un peu du tort à des jeunes auteurs qui dans ces premiers livres. Alors comme c'est bien mis en page, ils ont tendance à penser que comme c'est propre et bien mis en page, le texte est bon aussi. Ben, quand on tape à la machine d'écrire les mécaniques, si on fait d'abord quand on recopie une page à la vieille machine à écrire mécanique, on la recopie. Pendant qu'on la recopie, on se tape le travail de la recopier avec les deux mains et tout à coup, il y a une phrase qui est moins bien, on a la flemme, on sent qu'elle est pas bien, on dit « Oh, je ne vais pas la recopier, cette phrase-là », elle saute. Tandis que l'ordinateur, vous n'avez jamais cette confrontation avec une sorte de fatigue physique. Tout est fait pour une sorte de confort, mais ce n'est pas conçu pour la prose. Pour la prose, un ordinateur, ce n'est pas fait pour ça. Ils ont jamais, les types qui font les programmes, d'ailleurs, qui sont souvent épouvantables, les logiciels qu'on installe sont souvent un peu... Enfin, sont bizarres, quand même. Déjà, par exemple, sur un PC, le fait qu'il faille taper sur démarrer pour arrêter, je trouve ça hallucinant, quand même.
C'est paradoxal, en tout cas.
J'aimerais bien voir le mec qui a conçu ça.
Mais en final, vous écrivez... Vous le saisissez sur ordinateur, votre...
Maintenant,
votre...
oui. Je vois que
une fois que c'était...
J'ai tout sur ordinateur à la fin, pour des raisons pratiques par rapport à l'imprimeur et à l'éditeur. C'est-à-dire, au moins, il n'y a plus de fautes.
Oui.
Parce que je contrôle. S'il y a des fautes, ce sont les miennes, alors elles m'énervent moins. Avant, on donnait le texte tapé à la machine, et tout était ressaisi.
Oui.
Et alors, il y avait des faux, des coquilles, tout bon, ce qui est normal.
Mais parce qu'il y a de moins en moins
de
lecteurs dans les maisons
d'édition. Oui, hein. Oui, entre autres, ça. Et puis, quand je mets des noms propres, ils sont systématiquement écorchés, donc ça m'énerve. Mmh. Donc, bon, et en plus, c'est plus pratique. Ça, voilà.
Mais je comprends tout à fait que le travail, par exemple, au stylo, soit, ou au crayon, à limite, certains écrivent au crayon, soit quelque chose de beaucoup plus tangible, plus. Qu'on possède mieux l'écriture.
Mais ça va plus vite pour la rature.
Oui.
On rature plus vite à la main. Moi, j'ai plein de stylos, j'en achète plein, mais même des stylos simples. Je vais dans les grandes surfaces et j'achète tous les petits stylos qui sont entre 90 centimes et 1,25€. Hein, aussi. Puis j'ai aussi des stylos à encre à 1000 euros pièce. Enfin, j'ai vraiment
une panoplie. Toute une panoplie.
Oui, et d'autres dont je ne me sers pas. Tout à coup, moi, je veux prendre des notes. Tout à coup, il n'y a pas un seul stylo sur ma table. Là, je vais chercher un vieux Bic qui traîne dans un coin. Et les autres stylos sont rangés, ils sont dans une autre pièce. Enfin,
ils ne sont pas forcément sous la main.
Non, c'est ça. Oui, c'est le fameux coup classique quand on vous dit un numéro de téléphone. Au téléphone, tout à coup, vous n'avez pas de stylo pour prendre note. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a écrit à la main ou à la machine, il y a quand même du désordre qui se fait. Donc, je vous dis, dans les ratures, etc. Oui. Et alors, je recopie à l'ordinateur, et l'ordinateur me donne la vitesse de lecture qui sera celle de mes futurs lecteurs. Donc, comme c'est propre et mis en page, je lis à la même vitesse.
Oui.
Et cette vitesse qui m'intéresse, d'accord, beaucoup plus que le son, beaucoup plus que
le rythme.
Voir, quoi. Oui, le rythme de lecture, c'est des textes qui sont faits pour être lus sans parole, enfin sans le son. C'est-à-dire qu'on c'est pour être lu avec les yeux.
Oui.
Et parfois, certains lecteurs lisent avec les yeux et on sait, si on touche leur glotte, on sait que la glotte bouge encore un petit peu. C'est un vieux reste de la lecture à haute voix qui se fait de façon muette. Et alors, c'est cette vitesse-là que je veux avoir. Donc, je veux qu'on puisse lire vite. Comme quand on lit mes textes à haute voix, j'aime qu'on les lise vite aussi, en articulant très bien pour qu'on comprenne tous les mots, mais que ce soit rapide.
D'accord.
J'aime qu'il y ait de la vitesse quoi, dans ce que j'écris. Donc, ça va assez vite, je pense, ma prose.
Oui. Et il y a une fluidité, effectivement, qui tient au style. Bon. Alors, écoutez, moi, je trouve ça très intéressant quand un auteur peut nous expliquer comment il travaille, comment... Bon, ce sont pas...
En même temps, vous savez, ce qui compte, c'est qu'on a dans la tête, hein, parce qu'au fond, qu'on écrit, peu importe.
Ah, je suis pas de votre avis, excusez-moi. Ah bon. Parce que ce qu'il y a dans la tête, bien sûr, mais après, il y a la manière de l'exprimer, quand même.
Mais la manière de l'exprimer, c'est dans la tête aussi. C'est ce qu'on appelle le style, sans trop savoir ce que c'est, finalement.
Oui, c'est vrai, correspond... Ça veut dire que ça correspond vraiment à ce qu'est l'auteur ?
Le style, forcément.
C'est pas quelque chose d'appris.
Mais je crois que c'est un don. Alors, je sais, si je n'aime pas du tout les dons, et toute cette notion de dire qu'on a des dons, ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai un peu baigné quand j'étais enfant de cœur. Et alors, maintenant, quand même, je pense qu'il doit y avoir un don. Pas, on est doué ou pas. Que je me dis, pour des deux écrivains qui travaillent tous les deux, disons, pendant 2 ans, 4 heures par jour, tous les jours, bon, ils font tous les deux un roman. Et un roman, il sera bon, l'autre sera mauvais. Or, ils vont travailler, ils sont impeccables, ils connaissent bien la grammaire française, ils connaissent bien, ils ont le vocabulaire qu'il faut. Pourquoi le roman de l'un est-il meilleur que le roman de l'autre ? Alors, on peut dire que c'est subjectif, c'est à mes yeux, mais même si quelqu'un trouve que c'est le contraire, que c'est l'autre qui est meilleur que le premier, j'ai pas la réponse à ça, mais à la limite, pourquoi Pierre Loti et Claude Farrère ont moins de talent que Proust ? Ils ont quand même bossé aussi. Claude Farrère, il a dû travailler beaucoup. Pourquoi c'est moins bien ?
C'est vrai.
Et donc, c'est un don. Il y a un don. Il y a quelque chose d'étonnant.
Il y a un don, oui.
Et maintenant, j'aime pas ça non plus, parce que le don, ça veut dire qu'il y aurait ça, des espèces d'archanges qui descendent.
Est-ce que c'est pas aussi l'idée de quelque chose de totalement original, quelque chose totalement propre à l'écrivain? Parce que, par exemple, vous parlez de Proust. Proust, il a créé quelque chose, il a un style à lui.
Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a... En plus, si on veut avoir une sorte de sincérité un peu neuve, il faut avoir une forme un peu neuve aussi. On tombe dans le convenu.
Oui. Qui peut être très bien écrit, mais qui est plus banal.
Oui, qui est convenu. C'est la psychologie conventionnelle. Des gens qui ont peur de heurter leurs lecteurs. Et d'où le succès qu'ils remportent auprès des lecteurs, parce qu'ils ne les heurtent pas. Donc, le lecteur est tout content de trouver des choses. Oui, en se disant, ça, il ne dérange pas. Et il faut déranger quand même un peu.
Oui. Alors, je sais que là, on aurait dû faire une pause musicale depuis un bon bout de temps, mais ça ne fait rien. Moi, j'aime beaucoup quand, je vous dis, quand un auteur parle de cette manière d'écrire, ce qui se passe. C'est assez mystérieux. Hein. C'est quand même, on parle d'alchimie, hein, parfois, entre le papier, le stylo et le cerveau de l'écrivain. Alors, nous allons faire une pause musicale et on reprend tout de suite après.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons François Veillergans qui vient d'écrire Royal Romance. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes académicien, mais depuis combien de temps ?
Ah, attendez, je vais vous le dire.
C'est pas très vieux ?
Non, 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 c'est récent. Alors, vous savez, à l'Académie française, c'est l'Académie française. Hein.
Oui.
On est d'abord, on est élu et puis on est reçu.
Oui.
Donc, ça se fait en deux temps. Alors, j'ai été élu en mars 2009.
D'accord. Et vous étiez à quel siège ? Alors, vous occupez quel siège ?
J'occupe un fauteuil qui... ils sont numérotés, les fauteuils. Enfin, c'est virtuel, parce qu'en fait, il n'y a pas de fauteuil. Hein. On est sur des chaises, un petit peu. Les 32. Il y a 40 fauteuils, 40 membres. Donc, je suis le fauteuil 32, qui a été occupé par Alfred de Vigny, que je trouve très, très agréable, très bien.
Oui.
Enfin,
d'ailleurs, vous parlez d'Alfred de Vigny dans votre ouvrage.
Oui, j'aime bien Alfred de Vigny. Enfin, il y a de quoi. Hein,
oui.
J'aime beaucoup La Mort du Loup, surtout.
C'est donc, ça, dont vous parlez dans votre roman.
Dans le Royal Roman. Enfin, je fais apprendre par réciter. Il y a une jeune femme amoureuse de quelqu'un qui apprend par cœur à la demande de l'homme qu'il aime, c'est Q apostrophe IL ou bien Q plus loin et l'apostrophe, vous voyez, donc tout ça. Et alors, le premier occupant de ce fauteuil, à la création de l'Académie française par Richelieu, c'était le grammairien Vaugelas, ou Vaugelas, si jamais su, s'il fallait prononcer le S, là, c'est comme pour Duras ou Duras, là. donc Vaugelas, alors on va dire. Voilà, et donc j'étais reçu, après, pour être reçu, on prononce un discours, j'ai prononcé mon discours.
Alors, on va revenir à Royal Romance. Royal Romance, c'est... Ben, ça tombe bien. En fait, c'est le nom d'une boisson, d'un cocktail,
cocktail,
je crois.
Hein. Oui.
Mais en même temps, il y a une romance, il y a une idée de romance. Oui. Royal, il y a... Alors, écoutez, je connais Montréal, je connais Québec, mais Montréal, il y a quelque chose qui s'appelle Royal.
Mais c'est le Mont-Royal.
Le Mont-Royal, voilà.
De toute façon, Montréal, Réal, c'est
oui,
Royal.
Oui, c'est ça, c'est Royal. Exactement. En plus, voilà. Alors, l'univers de Daniel Flamme semble composé de femmes et de livres. Et je me suis dit, mais dans le fond, les femmes sont des sujets de romans pour vous.
Pour qui ?
Pour l'auteur, pour le... je ne sais pas.
Oui, mais les hommes aussi, les animaux aussi. faire un roman, faire un canari. Hein. Mais bon, là, ce sont des femmes. En fait, le personnage se construit un peu par des rencontres ou se détruit par des rencontres, comme on voudra. C'est plutôt, en l'occurrence, la jeune fille là, qui se détruit que lui. Et à la fin, il y a une sorte de dérédiction. On est avec le personnage masculin tout seul là, qui s'enfonce dans une sorte d'enfer, dans un sens un petit peu comme la fin de l'opéra de Mozart, je dirais. Mmh. Il est sauvé, plus ou moins sauvé, dans les dernières lignes, par sa fille qui apparaît à coup à la fin, en une phrase qui, à mon avis, rétablit un peu tout ce qui a précédé, et qui est ma modeste obole à l'optimisme, parce que le livre n'est pas très optimiste.
Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une fuite chez Daniel Flamme, une fuite de tout engagement, de tout lien étroit, c'est l'impression que j'ai eue, moi, en lisant cela, une fuite. Et dans le fond, à un moment donné, et peut-être au début de votre ouvrage, vous dites à quoi bon pour certaines choses. Est-ce que c'est ça, à quoi bon ?
Non, il y a quand même une sorte de désir de trouver un sens aux choses. Et en même temps, peut-être que les choses n'ont pas de sens. Et peut-être que c'est bien qu'il n'y ait pas de sens. Parce que quand on dit, par exemple, est-ce que la vie a un sens ? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a certaines religions qui donnent une réponse. Il y a des philosophies qui donnent une réponse. Il y a aussi la réponse qui consiste à dire il n'y a pas de réponse. Mais moi, je dirais plutôt que c'est pas la bonne question. C'est pas les réponses qui m'intéressent. C'est la question de la vie. Est-ce que la vie a un sens ? N'est pas une question qui a du sens dans un sens. Oui. On n'a pas cette interrogation sur le sens de la vie. Elle est là. Son sens ne m'intéresse pas du tout. Et dans ce roman, il y a pas. On s'occupe pas du sens de la vie. On s'occupe de vivre. Je sais pas si vous voyez là. C'est compliqué à expliquer. Oui. J'écris un roman pour l'expliquer, donc je vais pas vous. Oui. En deux phrases, en trois coups de cuillère à peau devant un micro, vous dire ça.
Bien sûr. Bon, alors, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est de voir ces deux personnages confrontés. Alors, une jeune femme, ce sont de très jeunes femmes en général, parce que c'est la vie, ça.
Pas toutes, en général, qu'est-ce que vous racontez là? J'ai fait exprès de mettre une femme quadragénaire, mère de deux enfants à la fin, qui occupe une grande place. Et d'ailleurs, personne ne me parle. Ça m'a beaucoup intéressé, ça. Parce que moi, j'ai aussi mon petit avis, surtout, je passe mon temps là, à être interviewé.
Mais celle-là, elle vous fuit, celle-là.
Alors, elle est là, elle est très importante dramatiquement. Elle arrive, c'est elle qui fait que le garçon laisse tomber la jeune fille pour s'intéresser à elle. Et j'ai fait exprès de lui donner 45 ans hein, pour justement qu'on me dise
et
pas.
Et on vous en parle pas de celle-là.
Non, on n'en parle pas. Non, mais les gens ne veulent pas savoir qu'elle existe. Ils veulent que ce soit une jeune fille et que l'autre ait l'âge d'être son père. Voilà.
Alors, moi, j'ai vu autre chose, François Veillard.
Alors, allez-y.
J'ai vu qu'en fait, Daniel Flam ne s'intéressait qu'aux femmes qui le fuyaient, qui lui résistaient.
Oui.
C'est vrai, ça.
Mais c'est toujours un peu excitant, ça. C'est un grand classique de la psychologie amoureuse, ça.
Absolument.
Oui. Donc ça doit bien traîner.
Et c'est Justine qui en fait les frais dans l'histoire.
Oui, parce qu'aussi elle est un peu... Mais en même temps, elle, c'est une fille un peu moderne. Elle a quand même sa vie sentimentale et sexuelle à elle, en dehors de lui. C'est une drôle de chose. Hein. C'est une relation dont elle vit à Montréal, lui vit à Paris, et il se voit peu. Et quand il se voit, ça recommence comme si c'était nouveau. Donc il garde une sorte de fraîcheur dans des rencontres dont ils doivent bien savoir l'un et l'autre qu'elles sont tout à fait provisoires et artificielles, et que ça n'ira pas tellement plus loin. Sauf qu'elle... Elle casse un peu la baraque en venant s'installer à Paris.
Alors, moi, j'ai trouvé que, en fait, alors vous allez me dire que je schématise peut-être.
Non.
Mais elle était bien canadienne, à savoir québécoise. J'ai toujours admiré cette spontanéité, cette générosité chez les Canadiens.
Oui.
Je me dis, et nous, Français, on est un petit peu compliqué. Je ne dirais pas qu'ils sont simplistes. Hein.
Non.
Mais ils ont une générosité. Une spontanéité.
Oui. Combien de temps vous êtes resté au Canada, au Québec?
Bon, pas longtemps, allez, d'accord. Non,
parce qu'ils font comme ça au début. Après, si vous restez plus longtemps, je suis resté longtemps, après ils vous font un peu la gueule, ils vous demandent pourquoi vous restez si longtemps, et puis après ils deviennent comme tout le monde. Et leur pseudo-générosité est un masque. Ils sont très gentils, les gens ont le sens de l'accueil, très gentils, tout
parce
ça.
Parce que nous, on n'a pas
chaleureux.
De pseudo-accueil.
Non, on est bien d'accord. Oui, non, il y a ça, mais c'est un masque. Ils sont comme tout le monde, finalement, encore heureux d'ailleurs.
Oui, alors c'est ça. Chez Justine, je me suis dit, finalement, elle donne tout. Et puis, celui qu'elle aime est plutôt parcimonieux. Hein,
oui, parce qu'elle donne tout vraiment, elle aussi. Oui, enfin, ça, on peut discuter, mais le roman est fait pour qu'on ait ce genre de discussion. Mais je veux que les gens qui ont lu ce livre, parlant entre eux, alors que vous et moi maintenant, à part que je suis l'auteur, ce qui gâche un peu la conversation, mais sinon, on parle comme de gens qu'on connaîtrait.
Oui, tout à fait.
Comme on est dans la cuisine, et puis on se dit, tiens, j'ai rentré cet après-midi là au magasin du coin, j'ai rencontré Justine, elle allait pas fort parce que l'autre, là, il est quand même pas, il la fuit un peu, Daniel, là, quand même, puis
il ferait mieux
de le laisser tomber, on parle comme ça, c'est un petit peu à ça que ça sert aussi, le roman. Mais...
Ce qui complique un petit peu la tâche, c'est qu'en fait, vous avez donné à Daniel Flam la fonction ou le métier d'écrivain.
Oui.
Alors du coup, évidemment, on se dit, bon, est-ce que c'est François Veillard-Gans qui parle de lui, qui se met... Alors on dit que dans tout ouvrage, l'auteur se décrit un petit peu.
Oui, mais alors... Oui, je me sers un peu de ma vie parce qu'il faut bien qu'elle me serve à quelque chose, donc je m'en sers un peu dans mes livres. Mais par exemple, j'ai écrit un jour la biographie d'un moine copte dans le désert... IVe siècle après Jésus-Christ.
Et vous n'êtes pas retrouvé
non,
dans
non, tout le monde m'a dit, hein, le moine copte c'est toi. Après j'écris, j'invente de façon un peu facétieuse les fausses mémoires d'un petit fœtus qui se développe pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. On me dit, ah oui, c'est toi le petit fœtus. Non, enfin, bon, ça c'est pas, ce sont des tics comme ça. C'est quand même dommage qu'on ne voit pas, on ne veut pas voir, parce qu'on ne veut pas voir le travail d'imagination et le travail de montage et de construction qu'il y a de ma part pour faire exister ces gens. Moi, je dirais au contraire, voilà un auteur qui sort de lui-même pour faire exister d'autres personnes que lui. Oui. C'est ça que je dirais, moi. Au lieu de... Sauf qu'il y a une espèce de... On ne se rend plus compte tout autant qu'on est, parce que moi-même, quand je lis des romans de mes confrères qui sont écrits à la première personne, c'est souvent la première personne qui induit ça. Mm. Si vous dites « je traverse la rue », on dit « tiens, c'est lui qui traverse la rue ». Si je mets « Jean-Jacques traverse la rue », on déjà un peu de recul, on ne pense pas que c'est moi, vraiment. Et ça, c'est un petit peu bête, ça, parce que je le dis parce que je le pense moi-même.
Mmh. Oui, oui. Mais en fait, vous avez. Alors, il est écrivain parce que ça vous a paru plus facile de prendre
quelqu'un.
C'est
ce que je connais le mieux. Voilà, oui. C'est tout. Voilà. Je me dis, je vais me servir ça, comme ça, au moins, je ferai pas de faute. On ne pourra rien me dire. Écrivain, je sais ce que c'est. Et donc, il n'y aura aucune faute faite là-dessus. Oui. Tandis que si je fais. Imaginez qu'il soit. Il peut être chirurgien ou il peut être pâtissier, enfin, n'importe quel autre métier. Alors je serais obligé de me renseigner sur ce métier et je ferais un travail que j'estime être plutôt un travail d'acteur. On voit très bien Robert De Niro qui veut interpréter un boxeur, qui va avoir des combats de boxe, qui grossit parce qu'il faut qu'il grossisse. Ça, c'est un travail d'acteur, c'est pas un travail de créateur. Le créateur, dans le film, c'est le metteur en scène, c'est pas l'acteur. Et là, si j'aurais pu, hein. J'ai des amis proches de moi qui sont chirurgiens. Je me dis,
il aurait pu être chirurgien.
Oui, je vais aller. Alors, j'aurais dû aller assister à des opérations, peut-être je me serais évanoui, j'en sais rien.
Donc, vous auriez eu des congrès. Ah oui.
Oui. Donc je me dis, je vais prendre un écrivain. Et alors, je sais que ça expose un peu au fait qu'on va
fatalement croire
que c'est moi. Et alors, je dirais, dans un sens, ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est un plaisir un peu pervers, peut-être, qui consiste à me dire, ah oui, bien, ils vont penser que c'est moi.
Oui. Alors, on va même
leur donner un petit peu de grain à moudre et je vais mettre dans un sens des trucs de moi, comme ça, ils vont penser que c'est moi. Et moi, je sais que c'est pas moi. Et donc, on attire en n'étant pas là où on est. Mm-hmm. Ce qui est c'est une façon de séduire.
Donc vous vous amusez avec le lecteur, vous jouez du lecteur.
Non, je joue avec le lecteur, c'est une sorte de séduction aussi, qui est un peu plus tordue que d'avoir le cœur sur la main, ce qui n'est pas du tout mon genre.
Oui, alors nous allons faire une seconde pause musicale et je crois qu'on là aussi on a pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave et nous reprenons tout de suite après.
Derrière un roman, un stylo, derrière la plume, un homme. Ce que l'on pense avant les mots, qui le saura, personne.
Derrière une chanson,
un piano, derrière les notes, l'accord. Qu'est-ce qu'on mort. Nous en étions au commencement, et déjà de génie évidemment. La terre n'était pas assez bleue et trop étroite pour nous deux. C'était hier, ça fait combien? 20 ans, 30 ans peut-être, plus ou moins. Derrière un roman, avant le couplet, une intro, avant l'envol, l'envie. Paroles et musique en duo, et devant nous la vie. Nous en étions au commencement. Toutes les femmes en faisaient qu'une, pour toi les blondes et moi les brunes.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons François Veillargans et son nouveau roman, Royal Romance, paru chez Julliard. Et nous allons parler, alors on pourrait parler de toutes ces femmes qui tournent autour de Daniel Flamme, qui est un écrivain, qui voyage beaucoup, qui rêve ses voyages. En fait, il y a le Japon, il y a l'Italie, c'est un plaisir que vous avez de voyager, vous-même,
moi,
par exemple.
Ben, je voyage. Le voyage fait partie de la vie contemporaine. On voyage beaucoup plus facilement et beaucoup plus loin que jamais. En plus, pour moins cher, même si mon personnage peut se payer des billets d'avion que peut-être moi-même je ne pourrais pas me payer.
Vous êtes invité à des salons.
Moi personnellement, moi j'y vais pratiquement jamais. Parce que lui, il va à Montréal, au Salon du Livre de Montréal. Oui. Tout le monde pense que c'est moi. J'ai jamais mis les pieds au Salon du Livre de Montréal, moi, personnellement. Mais c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que ce roman n'aurait pas pu être écrit peut-être il y a 15 ou 20 ans parce qu'il reflète des choses plus contemporaines. Il y a l'usage du SMS qui me passionnait parce que c'est un moyen de communication très intéressant. Alors
qui ressemble à des dialogues d'ailleurs, vous en parlez.
Je me dis, de par la fréquence et la vitesse des échanges, le SMS peut donner l'illusion à des gens qui sont éloignés l'un de l'autre, donner l'illusion d'une vie en commun quand même. Contrairement au téléphone, qui est frustrant, qu'au téléphone vous avez la voix qui est presque plus vivante.
Et la distance semble plus grande encore.
Oui, c'est vrai. Donc je voulais faire un mélange de téléphone, de SMS. Parce que l'idée c'était quand même de faire que ces gens se revoient de temps en temps.
Mais
communiquent tout le temps. Oui. Ce qui amoindrit l'absence, et donc quand ils se retrouvent, c'est tout à fait plausible qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre comme s'ils s'étaient quittés la veille.
Alors, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler de l'humour, parce que alors là, moi je suis très sensible à votre humour, François Veillargans, et c'est vrai que souvent je ris ou plutôt je souris. Et il y a par exemple, alors j'ai noté plein de pages, mais alors là je sens qu'on va pas avoir le temps de lire des extraits. Mais à un moment donné, par exemple, je vous dis, je tiens à devenir spécialiste de tout ce qui m'intéresse, les bouilloires. Et alors là, il y a une lecture désopilante sur les bouilloires. Pour moi, c'est désopilant. Je sais pas si pour vous.
Ah, les bouilloires électriques, c'est un peu drôle. Oui.
C'est assez drôle. Et alors surtout. Justement, c'est là où j'ai trouvé très intéressant la fin. Quel conseil me donnerait-on si je téléphonais à une compagnie d'assurance? Je voudrais assurer des objets qui n'ont aucune valeur, une bouilloire électrique notamment, et les mini-cassettes qu'enregistrait Justine, la femme qui entrait dans les restaurants comme une actrice, entre en scène. L'entrée en scène, il n'y a rien de plus important. En 10 secondes, on sait si l'interprète a du talent ou pas. On passe de la bouilloire à Justine entrant en scène, voilà. Bon, oui. Et ce que vous disiez en début d'entretien, on le retrouve là, c'est typique.
Ah oui. Mais il faut un peu surprendre quand même. Moi, j'aime bien surprendre. Enfin, il faut que les choses glissent les unes après les autres. C'est un peu comme des associations d'idées, mais qui sont construites et qui apportent de la lumière sur les personnages.
Oui. Alors, la fin, effectivement, alors quand je parle d'humour, oui, c'est tout au cours de l'ouvrage, mais c'est vrai que la fin de l'ouvrage, on ne va pas en parler, est fondamentalement pessimiste. Alors, on voit quand même quelqu'un qui s'enfonce dans une dépression.
Mais ça, il y a ça déjà un petit peu avant.
Oui.
C'est vrai, mais c'est une dépression assez contemporaine. Que j'avais écrit il y a longtemps, il y a 30 ans, je pense, un livre qui s'appelle Le Radeau de la Méduse, qui parlait d'un metteur en scène, réalisateur de télévision, qui avait un documentaire à faire sur Géricault. Et à l'époque, les gens avaient dit c'est un dépressif, il est déprimé. Et c'est vrai que je le considérais moi aussi comme un personnage déprimé. Et là, on est en 1980, disons, en gros. Et aujourd'hui,
30 ans plus tard.
Oui, c'est ça. Je publie donc Royal Romance, où le personnage est aussi à de grandes composantes dépressives. Alors, par curiosité, je suis allé regarder quelques pages de mon livre d'il y a 30 ans, dont j'avais un peu oublié plein de choses d'ailleurs. Et alors, je me suis dit, tiens, il n'est pas si déprimé que ça. Ça veut dire que 30 ans après, la dépression est plus importante, comme si les romans étaient un peu les témoins de leur époque. Donc vouloir être déprimé, enfin d'écrire un déprimé en 1980,
Différent.
C'était pas pareil. C'est pire aujourd'hui dans un sens. Ouais. Ben aussi parce qu'on est peut-être plus au courant. Enfin, il y a quand même plus de crises aujourd'hui qu'en 80. Et 80, c'était la fin de Giscard d'Estaing. Le Mitterrand allait arriver. La France, bon, ça allait en gros un petit peu. Là, ça va beaucoup
moins. Et vous êtes sensible à tout ce qui se passe autour de vous?
Ah, bien sûr. Oui. Oui, je ne vais pas en parler, je ne suis pas journaliste, mais ça fait partie un peu de choses qu'on sent quand même et qui sont en filigrane, on va dire, dans un roman, l'époque.
Et vous n'avez aucun espoir dans la société, dans l'homme?
Si. Non, vous n'allez pas me faire dire non plus, sinon je vais me suicider en direct.
Ah non, parce qu'il y a deux suicides dans votre livre, ça suffit.
C'est vrai. Non, mais... Parfois, on pose des questions, mais on va voir d'où ça appartient, peut-être à des générations futures, mais on peut se laisser aller au pessimisme, et alors là, ça va très mal, et en effet, il y a toutes les raisons de se dire, mon Dieu, on est en train de vivre la fin d'un cycle, je ne sais pas ce qui va se passer après, et tout ça. Puis, d'autre part, on peut aussi décider de se réveiller en étant guilleret, et de se dire, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que cette époque soit formidable, parce que tout est là aussi. Avec la même technique, on peut rendre les gens complètement crétins, ce qu'ils sont en train de devenir quand même, et aussi tout à coup les réveiller.
Oui, exactement. Et puis on rencontre des gens formidables. François Villergans, merci. Royal Romance, donc édité chez Julliard, un grand merci d'être venu dans nos studios.
Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir eu cette conversation.
Merci, au revoir.